Et si on ouvrait la Bible, la parole de Dieu, est-ce que vous avez vos BIBLE? Juste en introduction, un verset qui se trouve cette fois-ci dans l'Ancien Testament. Un verset très court, mais qui en dit long et qui certainement va concerner tout le monde. Proverbes chapitre 22 et le verset 1. On va essentiellement s'arrêter sur la première partie de ce verset et nous lisons ensemble ce qu'a dit le grand roi Salomon. Cet homme qui a reçu une sagesse exceptionnelle, une sagesse qui vient d'en haut. Proverbes chapitre 22, verset 1. Je vous laisse le temps de le chercher parce que j'entends encore des bruits de feuilles. Et pour moi, c'est bon signe. Proverbes chapitre 22 et le verset 1. Nous lisons ensemble. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Mais je mets l'accent ce matin sur cette première partie de ce verset. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et vous l'avez compris, ce matin, j'aimerais bien que nous puissions nous entretenir sur un sujet, je pense, comme je l'ai dit, eh bien, sera concerné chacun d'entre nous. J'aimerais parler de la réputation. Qu'est-ce que la réputation ? La réputation, c'est l'idée commune que l'on a sur quelqu'un, ou voire sur quelque chose. Et il faut savoir que notre réputation va naturellement se construire avec déjà, premièrement, ce que l'on est, et puis aussi, eh bien, ce que les autres, le prochain, va voir, entendre à travers nos vies. On a posé un jour la question à des internautes en leur demandant la chose suivante, est-ce que vous veillez sur votre réputation ? Et leur réponse, eh bien, a été comme sans appel. 75% des internautes qui ont été interrogés ont répondu par l'affirmative et 25 autres ont répondu non. Et je nous pose, et je vous pose cette question ce matin. Est-ce que votre réputation a de l'importance à vos yeux? Quelques secondes de réflexion, ne répondez pas, répondez peut-être intérieurement. Vous savez, certaines personnes affirment qu'elles se moquent éperdument de leur réputation. Elles n'ont que faire de ce que les gens peuvent penser, eh bien d'eux, d'elles plutôt. Mais est-ce que c'est bien sérieux tout cela? Je crois au contraire que veiller à notre réputation n'est pas une chose à prendre à la légère. Au vu même de ce que nous avons lu dans Proverbes chapitre 22 au verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Et je crois vraiment que nous chrétiens, nés nouveaux, nous avons même une certaine réputation, et on va entrer dans les détails, une certaine réputation que nous devons garder jalousement, que nous devons chérir plus que jamais, car elle a infiniment plus de valeur que tout l'or du monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et cette réputation, je m'explique, c'est celle qui consiste à toujours honorer et glorifier. Tout à l'heure, on l'a chanté, soit glorifié, soit honoré. Et comment le Seigneur va être glorifié, si ce n'est eh bien, par nos vies? Cette réputation, elle consiste aussi à marcher en harmonie avec la parole de Dieu, afin de ne pas mettre justement le discrédit sur l'évangile. Et c'est pourquoi, à mon sens, et je pense que vous serez d'accord avec moi, il est plus qu'urgent, il est primordial que nous veillons toujours à avoir une bonne réputation, premièrement, dans le monde. Avoir une bonne réputation parmi les incroyants. Vous savez, lorsque notre réputation parmi les inconvertis n'est pas au beau fixe, n'est pas du tout à la gloire de Dieu, vous savez quoi ? Nous portons préjudice à l'évangile. Nous devenons une entrave. Un sujet, une pierre d'achoppement pour les inconvertis, mais aussi même pour les croyants fragiles. Et croyez-moi, j'ouvre mon cœur, il m'est arrivé à des moments, par les circonstances, de rencontrer eh bien, des inconvertis. Alors peut-être pas ici en ces lieux, je veux rassurer et je veux inquiéter personne. Et qui, en ouvrant la bouche, m'ont parlé de certains chrétiens que je connaissais. Et ce qu'ils me disaient de ce qu'ils étaient à l'extérieur de l'Église, m'a profondément attristé. Et si ce n'était que moi, je pense que le Saint-Esprit est attristé. Dieu lui-même est attristé. À l'inverse, lorsque nous avons une bonne réputation, frères et sœurs, parmi les non-croyants, eh bien cela ne peut que servir la cause de Christ et attirer au contraire les non-croyants eh bien, vers le Seigneur Jésus. C'est ce que d'ailleurs Jésus a expliqué à ses disciples quand il leur a rappelé qu'ils étaient la lumière du monde. Et il a aussi rajouté dans Matthieu chapitre 5 et le verset 16, on va le lire aussi, Jésus va dire à ses disciples « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nos bonnes œuvres vont aussi contribuer à construire notre réputation. Et s'ils voient des bonnes œuvres, eh bien, c'est la preuve eh bien, que nous aurons une bonne réputation et cela va ni plus ni moins leur donner à leur tour à pouvoir glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin ? Ce n'est pas compliqué, mais Dieu veut nous interpeller sur notre comportement, notre témoignage, finalement notre réputation. Paul aussi a donné aussi un conseil à ce jeune Timothée, ce jeune serviteur de Dieu, concernant le choix des anciens, et plaise à Dieu qu'ici même dans cette église, officiellement, soient présentés aussi des anciens, des hommes de Dieu qui sont assis dans la parole. Mais regardez eh bien, ce qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 7. Ça vaut le coup de pouvoir lire ce passage. 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous l'avons sur l'écran. Nous lisons ensemble. « Cette parole est certaine, dit l'apôtre Paul, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, autrement dit à la charge d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais au contraire indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, mais comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et le verset 7 qui va nous interpeller, qui va nous intéresser un peu plus, il faut aussi que l'ancien reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et ce point-là, il est important, et il nous concerne à tous, il faut qu'il reçoive un bon témoignage. Autrement dit, il faut qu'il ait une bonne réputation de ceux du dehors. J'ai d'ailleurs une autre version, la version Semeur, qui explique ce verset 7 de la manière suivante. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Combien d'inconvertis sont arrivés eh bien, dans certaines églises. Vous avez tous entendu ces genres d'histoires et ont reconnu des personnes, peut-être qu'ils côtoient au travail ou autre, et haut et fort vont commencer à pointer du doigt telle ou telle personne et leur dire « Mais toi, tu es chrétien ? Toi qui as cette attitude, toi qui as ces paroles, toi qui as ces comportements jour après jour, tu es chrétien, toi ?» Et quelque part, on devient alors à ce moment-là comme un blocage, une pierre d'achoppement. Les gens, vous savez, les gens du monde, ils sauront nous dire parfaitement, tels des miroirs, si nous sommes chrétiens ou pas. Eux, ils sont dans les ténèbres. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais ils savent reconnaître où se trouve la lumière. Si je demandais à éteindre toutes les lumières ici, et que quelqu'un allumerait une petite lampe de poche ou autre, on saurait repérer où se trouve la lumière. C'est pareil. Et les païens sont comme pour nous des miroirs qui vont nous montrer eh bien, qui réellement nous sommes. Aussi, il est important pour nous de veiller à avoir une bonne réputation dans ce bas monde. Une bonne réputation surtout parmi eh bien, les incroyants, afin que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour eux, mais au contraire le moyen pour eux de pouvoir se tourner vers Dieu. Il faut avoir une bonne réputation dans le monde, parmi les païens, mais je pense aussi qu'il faut une bonne réputation au sein de l'Église, parmi les frères et les sœurs. Amen ou pas amen ? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle ce matin ce qu'a bien dit les apôtres dans le Nouveau Testament, à savoir que l'Église de Dieu est aussi désignée comme étant la colonne et l'appui de la vérité ? On a besoin de réaliser ces choses. l'Église est précieuse et Jésus la voit belle. Malheureusement, il peut y avoir au sein de l'Église de Jésus des chrétiens qui, peut-être par leur attitude, leur comportement, ne rendent pas du tout un bon témoignage. Et ça, c'est dommage. On en a déjà parlé une fois, j'ai parlé de l'ivraie et du blé. C'est inévitable. Vous savez, ici, c'est un lieu public. Mais parmi toutes les personnes qui sont rassemblées, le Seigneur sait reconnaître les siens. Et que celui qui professe de connaître le Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, nous dit la parole de Dieu. Et ces personnes, ces chrétiens, ont des attitudes compromettantes, des comportements inadmissibles, qui, par la suite, leur ont forgé sur leur personne une mauvaise réputation. C'est eux-mêmes qui se sont fait une réputation, une mauvaise réputation, par des comportements, par des attitudes qui pourraient justement apporter le trouble parmi les enfants de Dieu. Vous savez, je voudrais juste vous donner un exemple, parmi tant d'autres, j'en ai trouvé un parmi 100, c'est quand on voit par exemple les deux fils du sacrificateur Élie. Est-ce que vous les connaissez ? On lit par exemple dans 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 25, je pense que ça vaudrait le coup de pouvoir lire un petit peu ce qu'a été leur histoire. Il nous est dit au verset 22, 1 Samuel chapitre 2, verset 22, « Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, autrement dit à l'entrée du tabernacle. Il leur dit, alors Élie a convoqué ses deux fils et leur dit, mais pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Et nous lisons verset 25, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? Et voyez-vous, ces deux jeunes, c'était des jeunes gens, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Et ce qui suit est d'autant plus choquant, l'Éternel voulait les faire mourir. Souvent, le français nous trompe. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Au contraire, il veut qu'il se repente. Mais une autre traduction, je pense, qui est plus à propos, dit l'Éternel était résolu de les châtier à cause de leur endurcissement. C'est tellement important. Alors il est fait mention donc de ces deux jeunes gens, fils du grand sacrificateur qui avait à l'époque, parce qu'ils étaient aussi de la tribu de Lévi et ils avaient été choisis pour pouvoir servir dans le tabernacle. Ces deux jeunes gens étaient amenés jour après jour à pouvoir toucher les choses saintes du saint tabernacle de Dieu. Ils touchaient les choses saintes de par leurs mains. Et chaque jour, ces deux personnages, au lieu d'honorer Dieu, pratiquaient toutes sortes de choses qui étaient coupables aux yeux de l'Éternel. Ils se sont tous les deux forgés une réputation d'hommes non seulement profanes, mais aussi pervers. Vous avez lu comme moi, ce qu'il faisait à côté. Et il s'était forgé une réputation. Le papa leur a dit, mais j'entends du peuple. Donc c'était une réputation. Ah, ces deux-là, vous ne les connaissez pas ? Mais oui, mais ils vont à telle église. Ah, non ? Ils font ça et c'est ça. Et c'est arrivé aux oreilles du papa. Et ça a attristé profondément le père. Et ils n'écoutèrent pas. Et vous avez vu comment, de quelle manière, par la suite, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Tous les deux sont tombés raides morts. Vous savez, il y a un avertissement que nous devrions prendre en compte, c'est dans Luc chapitre 17, les versets 1 et 2. Et c'est Jésus qui parle, et quand Jésus parle, je crois qu'on a besoin de faire silence. Et il dit dans Luc chapitre 17, les versets 1 et 2, écoutez bien, c'est pour ça, il ne faut pas qu'on soit troublé, il ne faut pas qu'on soit affolé, etc. Regardez ce que Jésus dit. Et c'est beau parce que Jésus a dit, je vous ai tout dit d'avance. Jésus dit à ses disciples, il est, vous lisez comme moi, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. On aurait aimé avoir une église parfaite. On aurait aimé. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Par contre, Jésus sera amené à rajouter à ses disciples la chose suivante. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Frères et sœurs, que nous puissions prendre en compte ces choses au sérieux afin peut-être de nous remettre en cause par rapport à bien la réputation que nous pourrions avoir, bien même parmi le peuple de Dieu, parmi les choses saintes. Vous croyez que le Seigneur ne voit pas ce qui se passe dans son église ? Je le dis avec force. Nous, les serviteurs de Dieu, nous passons. Je ne sais pas combien de temps je resterai parmi vous. Nous sommes de passage, mais l'église appartient à Jésus-Christ. Et quand je dis ça, je sens la force. Quand je dis ça, je sens le Saint-Esprit qui approuve ces choses. Cette église appartient à Jésus. Les âmes qui s'y trouvent appartiennent au Seigneur. On ne fait pas n'importe quoi dans la maison de Dieu. Et on est encore moins un sujet de scandale pour personne. Mais au contraire, nous veillons sur nous-mêmes. Que Dieu nous garde d'avoir une telle réputation. Autrement, tout comme les deux fils d'Élie, nous n'échapperons pas, frères et sœurs, ne nous flattons pas, nous n'échapperons pas au jugement. Quand on touche au plus petit, on touche à la prunelle du Seigneur. Ne confondez pas la patience du Seigneur avec aussi, parce qu'il nous est parlé de la colère de l'agneau. Et à un moment donné, le Seigneur il patiente, et puis à un moment donné, paf ! Pour l'avoir vu, frères et sœurs, pour l'avoir vu dans d'autres églises, je peux vous dire, il nous faut entrer dans ces lieux avec crainte et prendre en compte la valeur qu'a l'Église aux yeux du Seigneur. Alors à l'inverse, parce que je voulais commencer quand même par le côté négatif de la chose, à l'inverse, et merci Seigneur, nous avons aussi dans la Bible quelques exemples de croyants pieux qui, eux, par contre, parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église de Jésus-Christ, ont eu une bonne réputation. Je vous pose une question. Oh, je peux, ce matin. Est-ce que vous connaissez ce quatuor, c'est-à-dire Shelemia, Tsadok, Pedadja et Anan ? C'est qui ces fous ? C'est qui ces gens ? Non, ils n'étaient pas des fous. Shelemia, Tsadok, Pedadja, Anan. Je n'ai pas parlé de Shadrach, Meshach et Abednego. Non. Eh bien, Néhémie, l'un des grands réformateurs de l'Ancien Testament, a cru bon à un moment donné de pouvoir confier certaines tâches, certaines missions à ces quatre individus, tout simplement parce qu'ils avaient tous les quatre quelque chose en commun qu'on pourrait lire dans Néhémie 13:13. Qui ne connaît pas Néhémie 13:13 ? Déjà, c'est facile à retenir. Il nous est dit, je confiais la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pedadja, l'un des lévites, et je leur adjoignit Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car, et c'est ce qu'il faut souligner, bien sûr, du regard, ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent donc chargés de faire les distributions à leurs frères. Ils avaient la réputation d'être fidèles. Frères et sœurs, c'est ma prière. Que nous ayons ici, à l'église, la réputation d'être fidèles. Au pas tant au-delà d'une activité, mais fidèles déjà à Dieu. Fidèle à la maison de Dieu, fidèle dans ce dans quoi le Seigneur nous appelle, fidèle dans la prière, fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, fidèle par rapport à Dieu, fidèle par rapport aux frères et aux sœurs. Autre exemple, est-ce que vous en voulez d'autres ? Les 7 premiers diacres ont été choisis, pourquoi ? Nous le lisons dans Actes chapitre 6, verset 3. Alors que les apôtres étaient dépassés par la distribution des biens qui étaient accordés aux chrétiens qui étaient dans la difficulté, il y a eu une pensée, et c'est là où est venue la création de certains frères et sœurs, parce qu'il y a diacres et diaconesses, il a été décidé de trouver des frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Avez-vous remarqué l'ordre de priorité ? Premièrement, que l'on rende d'eux un bon témoignage. Et puis, bien sûr, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Mais lorsqu'on est plein d'Esprit Saint et de sagesse, forcément, on rend un bon témoignage. Mais quand même, l'ordre est là. Que l'on rende d'abord un bon témoignage. C'est que 7 frères ont une bonne réputation déjà dans l'église où ils se trouvaient. Et c'est ce qui doit nous interpeller ce matin. Un autre exemple, c'est celui de Barnabas. Barnabas, qui fut envoyé de Jérusalem pour aller rejoindre les chrétiens, les jeunes chrétiens qui venaient de se convertir et qui se trouvaient à Antioche. Pourquoi, là aussi, a-t-on pensé à Barnabas pour cette mission? On a aussi la réponse, Actes chapitre 11 et le verset 24. Barnabas était un homme de bien. Lui aussi était plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'était un homme de bien, Barnabas. On le connaissait en long, en large. Partout où il allait, il apportait eh bien, la paix. Partout où il allait, c'était pour faire du bien. Et que nous soyons connus pour cela. Un autre exemple, celui de Timothée, le jeune serviteur de Dieu. Je suis convaincu que l'apôtre Paul, à un moment donné, a repéré ce jeune homme eh bien, et lui a proposé de pouvoir eh bien, l'emmener avec lui dans ses différentes missions, tout simplement eh bien, parce qu'il rendait lui aussi un bon témoignage. En tout cas, c'est ce que dit la Bible. Regardez dans Actes chapitre 16 et le verset 2. Je vous laisse trouver encore ces passages. Excusez-moi, je vous fais voyager dans la Bible ce matin, mais c'est tellement important. Les frères de Lystre et d'Icone rendaient de lui un bon témoignage. Alors pas seulement dans l'église où se trouvait Timothée, mais les églises aussi avoisinantes, tous connaissaient Timothée. Ah Timothée, le jeune frère. Ah mais oui. Et un large sourire s'esquissait sur les visages. On connaissait Timothée. Et soyons honnêtes, si les gens le connaissaient ce jeune homme, je vous assure, le Seigneur du haut de son trône observait ce jeune homme. Et peut-être Timothée ne savait pas à l'époque eh bien que le Seigneur voulait l'emmener plus loin, l'emmener beaucoup plus loin. Un dernier exemple, c'est celui, cette fois-ci, d'Ananias, celui que Dieu a envoyé d'une manière miraculeuse vers Saul de Tarse, qui plus tard a été le grand apôtre Paul. Et pourquoi lui aussi eh bien, a été choisi par Dieu? Eh bien, on a aussi une réponse dans la Bible, et c'est l'apôtre Paul lui-même eh bien, qui l'apporte. Actes chapitre 22, verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi. L'apôtre Paul, partout il allait, partout il raconte son témoignage, il est obligé, incontournablement, à bien de pouvoir parler de ce frère qui était connu de toute l'église assemblée de Dieu de Damas. Qui ne connaissait pas eh bien, Ananias. Et tout cela, j'ai donné ces exemples volontairement, tout simplement pour nous rappeler que, au final, tout ce que Dieu a sollicité, tout ce que Dieu a choisi pour son service, eh bien, ont été des chrétiens qui ont veillé à avoir une bonne réputation. Une bonne réputation au sein eh bien, de l'église là où ils se trouvaient. Ils ont veillé à avoir une bonne réputation durant leur marche chrétienne. Et c'est pourquoi je voudrais dire ce matin, n'ayons pas peur de nous poser la question. Oui, nous poser la question suivante, surtout pour nous qui désirons servir Dieu, quelle réputation avons-nous dans l'Église de Jésus-Christ? Comment on me connaît parmi les frères et sœurs? Jésus, d'ailleurs, lui-même a posé la question, que dit-on de moi? On ne serait pas en droit aussi de poser la même question? Que dit-on de moi, en fait? Alors, dans l'Église, mais aussi eh bien, à l'extérieur, c'est tellement important. Quelle réputation avons-nous dans l'Église? Et s'il y a lieu de rectifier le tir, alors demandons humblement au Seigneur de nous aider, peut-être à émonder les bords, à corriger, à rectifier, eh bien, peut-être ce qui a besoin d'être rectifié, parce que voyez-vous, Dieu, il nous aime. Il est plein de compassion. Jamais il est là pour nous accuser. Il est là pour nous dire la vérité, oui, c'est vrai. Mais il est surtout là pour relever celui qui a besoin d'être relevé. Il est là pour faire grâce à celui ou celle qui reconnaît ses torts et qui se repent pleinement. Je ne veux pas être trop long ce matin. J'ai parlé qu'il est important d'avoir une bonne réputation dans le monde, surtout parmi les non-croyants. Il est à plus forte raison important d'avoir une bonne réputation parmi les frères et les sœurs, afin, on vient de le voir, d'être utilisé par Dieu. Je voudrais terminer par une question. Et la question est la suivante. Quelle réputation avons-nous aux yeux de Dieu? Vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on l'informe de qui nous sommes. Il n'a pas besoin des autres pour connaître la vraie réputation qui se dégage de notre personne. Parce que Dieu sait exactement qui nous sommes. Est-ce que vous le savez, ça? On n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit au Seigneur. Il sait toutes choses puisqu'il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, nos motivations, nos intentions, nos réactions. Il sait tout d'avance, absolument tout. Il connaissait eh bien, quelle était la réputation que s'était forgée Zachée, hein, ne vous inquiétez pas. Il savait eh bien, dans quelle maison il allait mettre les pieds. Il connaissait aussi la réputation que s'était aussi forgée cette femme de Samarie, la femme samaritaine qu'il a rencontrée près du puits de Jacob. Il connaissait parfaitement les sept églises qui sont désignées dans le livre de l'Apocalypse, comme on l'a lu en introduction à la Sainte Cène. Il connaissait l'église de Laodicée. Il va dire d'ailleurs à plusieurs reprises, « Je sais, je connais tes œuvres, je sais ceci, cela. » Mais il ne s'empêchait pas eh bien, de pouvoir dire, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que peut-être tu as abandonné ton premier amour. » Il va dire à l'autre, « Tu passes pour être vivant, mais moi je le sais. Je sais qui tu es et tu es mort. » Bien sûr, il parlait de mort spirituelle. Et le Seigneur, il, avec une telle douceur, tendresse, pointe du doigt le mal pour que, eh bien, en retour, nous puissions avoir la bonne réaction pour crier vers lui et lui demander son aide. Quelque part, que le Seigneur sache qui nous sommes. Parce que vous savez, même ce matin, le Seigneur serait capable, même avec une seule phrase, de décrire ce qu'est notre vie, ce que nous sommes. C'est miraculeux. D'ailleurs, je le dis, c'est même pas dans mes notes, mais j'ouvre et je ferme la parenthèse. Il nous est dit, là-haut, on aura un nom nouveau. Et je suis sûr, alors ça c'est mon opinion, attention, c'est pas la Bible, c'est mon opinion. Je suis sûr, c'est ma conviction, que sur ce nom correspondra à ce que nous avons été ici-bas sous cette terre. Quand on voit dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que sur la cuisse du Seigneur Jésus écrit « fidèle et véritable ». Souvent, les gens ont été désignés par ce qu'ils sont. Et je crois que le Seigneur, il sait exactement ce que nous sommes. Et cela, quelque part, eh bien, doit nous rassurer, rassurer notre cœur, car nous n'avons pas expliqué les choses, Seigneur. Arrêtons d'expliquer ce que nous-mêmes, nous avons même du mal à expliquer. On n'a même pas à se prouver devant Dieu. Il savait que nous étions pécheurs. Et ça ne l'a pas empêché eh bien, de pouvoir nous accueillir et nous recevoir comme ses enfants. Cela doit aussi susciter au-dedans de nous de la crainte, un grand respect pour ce Dieu qui sait toutes choses. Et malgré ce qu'il savait de nous, comme je l'ai dit, il nous a accueillis dans sa grande famille, que Dieu soit béni. En conclusion, nous l'avons vu, la réputation est préférable à de grands biens. C'est le verset que nous avons lu en introduction. Mais je ne sais pas si vous connaissez aussi cet autre passage dans, cette fois-ci, le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7 et le verset 1. Et là aussi, il nous est parlé de réputation, mais de bonne réputation. Et il nous est dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et il est rajouté, le jour de la mort, que le jour de la naissance. Mais nous retenons, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et j'ai l'impression, eh bien, que finalement, nous pourrions aussi comparer notre réputation, notre bonne réputation, à un merveilleux parfum. Vous savez, on peut appliquer un parfum qui va demeurer sur nous quelques heures, allez, peut-être une journée. Mais la bonne réputation, elle demeure constamment sur nous. Et le bon parfum que nous avons sur nous, c'est la bonne odeur de Christ, qui doit justement avoir un impact, un effet, eh bien, sur ceux qui nous entourent, qui doit avoir un effet sur le non-croyant comme sur le croyant. Et c'est ce qu'il faut retenir. Notre bonne réputation, elle peut aussi être comparée à cette lumière qui va briller eh bien, celui qui est garé dans les ténèbres et qui va l'aider à se laisser acheminer vers Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien est nouveau. Il a besoin de veiller. Il a besoin de veiller sur ça, toujours à garder une bonne réputation, tant dans le monde parmi eh bien, les incroyants, comme également eh bien, dans l'Église. Parmi les chrétiens. Frères et sœurs, ne laissons jamais le péché, et encore moins le diable, ternir notre réputation d'enfant de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à ce jeune serviteur de Dieu que personne ne méprise ta jeunesse. Et il y a une autre version qui dit ne permet à personne de mépriser, fais en sorte pour que eh bien, jamais ta jeunesse soit méprisée, mais au contraire, sois un modèle. Que ta réputation soit connue de tous. pour être un homme qui marche dans la pureté, pour être un homme qui marche dans la sainteté, un homme qui est respectueux, un homme qui aime Dieu, un homme qui aime les âmes, un homme, eh bien, selon le cœur de Dieu. Ne laisse pas le diable ternir cette bonne réputation. Ne laisse pas le diable, eh bien, à cause de toi, bafouer, blasphémer contre l'Évangile. Au contraire, permets au Saint-Esprit de faire briller aux yeux du monde l'image du Christ au-dedans de toi. Alors, lorsque Jésus reviendra nous chercher, et lorsqu'il nous introduira dans ce ciel de gloire qu'il a préparé pour chacun d'entre nous, il saura dire haut et fort, devant le Père, mais aussi devant ses saints anges, quelle a été notre réputation lorsque nous étions pèlerins ici-bas sur cette terre. Il dira de nous, bon et fidèle serviteur, et plaise à Dieu, à qu'il en soit ainsi pour chacune de nos vies. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends compte, est-ce que tu fais attention à la bonne réputation? Vous l'avez compris, je ne parle pas de cette réputation qui cherche à flatter notre ego, à faire plaisir à tout le monde. Il y en a qui ne vivent pas à cause de cela, toujours à chercher l'approbation des autres et quoi que ce soit. Non, je ne parle pas de ça. Vous l'avez compris dans quel sens je voulais parler de la réputation dans le sens le plus noble du terme. Réputation parce que nous avons un nom que nous portons, c'est le nom de Jésus. Et que jamais on entende X ou Y, eh bien celui-là, il a fait ça, celui-là a fait. Frères et sœurs, que nous soyons au contraire des témoins dans notre génération. Et pour cela, le Saint-Esprit veut nous aider. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu avais toi, Seigneur, la bonne réputation de faire du bien partout où tu passais. Partout où tu passais, tu as porté la vie. Là même où il y avait la mort, que je me rappelle ce jour où tu as rencontré ce cortège de mort, cette femme, Seigneur, venant de cette ville de Naïn, et tu as arrêté le cortège, et tu as bouleversé, Seigneur, la donne, Seigneur. Et ce jeune homme qui était, mon Dieu, mort, tu l'as ramené à la vie. Et partout où nous voulons être, partout où tu nous places, nous voudrions apporter la vie. Nous voudrions apporter, au contraire, de l'espoir aux gens. Nous voudrions leur apporter, Seigneur, un peu, Seigneur, Père de paix. Et nous en avons les moyens parce que tu es venu habiter en nous. Et le bon parfum que nous portons, c'est celui de Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, pardonne-nous. Et je te prie que ce temps de prière, de jeûne et de prière, Seigneur, qui approche, puisse servir encore à nous émonder, à nous purifier, Seigneur, devant toi, afin que nous soyons efficaces, afin que notre lumière au-dedans de nous ne soit pas ternie, mais qu'au contraire, elle puisse briller de tous ses feux, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, sanctifie nos vies. Donne-nous à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Donne-nous à aimer les âmes. Donne-nous à aimer, Seigneur mon Dieu, ton royaume. Donne-nous à aimer les choses saintes. Donne-nous à aimer ta parole. Aide-nous à ne point raidir le cou comme les fils d'Élie. Mais au contraire, Seigneur, donne-nous à être dociles. Afin, Seigneur, d'être béni en retour. Je te le demande au nom de Jésus. Ta grâce sur nos vies. Ta grâce sur nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen et Amen.